Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens. Et au chapitre 4, l'épître de Paul aux Éphésiens, nous continuons notre série d'études intitulée « Aux saints qui sont à Éphèse ». Et justement, aujourd'hui, nous allons voir la marche du chrétien. L'épître de Paul aux Éphésiens est partagé en deux parties. Et donc, il y a les trois premiers chapitres, puis les trois derniers chapitres. Les trois premiers chapitres sont doctrinaux. C'est de l'enseignement. C'est là où il nous explique certaines vérités par rapport à la parole. Et dans la deuxième partie, ce sont la mise en pratique, donc la vie de tous les jours. Et l'apôtre Paul, vous voyez au début du chapitre 4, il dit « Je vous exhorte donc ». Donc c'est-à-dire que c'est en conclusion de ce qui vient d'être dit. Donc les trois chapitres précédents sont de l'enseignement où il nous apprend pas mal de choses, il nous explique pas mal de choses et nous avons passé beaucoup de temps avec le mystère de Christ. Et il dit maintenant que vous savez toutes ces choses, alors maintenant nous allons les mettre en pratique. Et l'exhortation, c'est de marcher, hein, c'est ça qu'il nous dit. Je vous exhorte, moi, prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, et nous allons voir que souvent il emploie cette expression de marcher. D'abord, je vais lire ces versets. Donc, on va commencer à lire au verset 20 du chapitre 3, verset 20 du chapitre 3, jusqu'au verset 6 du chapitre 4. Pour faire le lien, pour tout lier, parce qu'à l'origine, il n'y avait pas les chapitres, hein, c'était un texte, c'était une lettre. Hein. Tout comme les lettres que vous écrivez, vous ne mettez pas des chapitres ni des versets, c'est un texte. Donc je commence au verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons à lui sur la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Voilà. On va commencer, mais ce matin on va surtout se limiter aux trois premiers versets. Je dis que le thème de cette deuxième partie de l'épître aux Éphésiens, le thème c'est la marche. Et vous voyez, par exemple, chapitre 4, on l'a vu déjà au chapitre 4, verset 1, il y a le mot « à marcher d'une manière digne de la vocation ». Au verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc vous devez marcher, mais pas comme eux. Le chapitre 5 et au verset 2 dit, bon, je commence au verset 1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et au chapitre 5, verset 8, il dit aussi « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et au verset 15 de ce même chapitre 5, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Voilà. Et donc, il nous invite à cette marche, ce comportement chrétien. Et même commentateur Warren Wiersbe, il départage ces versets, ces passages, et il parle du chapitre 4, 1, 16, il parle ça de la marche dans l'unité. Du chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 17, il dit la marche dans la pureté. Du chapitre 5, 18, jusqu'à 6, 9, il dit la marche dans l'harmonie. Et puis, les chapitres 6, verset 10, jusqu'à 24, il parle de la marche dans la victoire. Donc, voilà les trois derniers chapitres, mais ce sera la marche. Comment marcher pour le Seigneur? Étant donné que ce que nous sommes dans le Seigneur, dans les trois premiers chapitres, et bien maintenant, comment vous devez marcher pour le Seigneur? Première chose, dans ce premier chapitre, il dit « Je vous exhorte donc ». C'est-à-dire qu'il y a une particularité chez nous et évangélique, et c'est que on ne donne pas une liste de règles, et voilà, le chrétien doit faire ça, il ne doit pas faire ça, c'est pas comme ça. Non, on enseigne la doctrine d'abord. Une fois, on se dit, à partir du moment qu'une personne comprend la pensée de Dieu, ce sera plus simple de la mettre en pratique. C'est une manière de respecter une personne. C'est un manque de respect. On dit à quelqu'un, écoute, cherche pas à comprendre, fais-le. Mais il se sent pas respecté. Mais quand on dit, écoute, je t'explique pourquoi. Voilà l'explication, maintenant, ben, ah oui, bon, maintenant que j'ai compris, il n'y a pas de problème. Et c'est un peu, c'est comme ça que Dieu nous parle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui respecte l'être humain. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, je vous exhorte donc. C'est-à-dire, vu tout ce qu'on vient de dire, ben alors maintenant, vous comprenez que c'est tout à fait normal de vivre une certaine manière de vivre. Et le chrétien qui dit, moi, bon, ne me parle pas de doctrine, ne cherche pas à comprendre la doctrine, moi, j'aime le Seigneur, alléluia. Celui-là, il n'a rien compris, et il ne sait pas pourquoi il fait, et il va vivre une mauvaise vie chrétienne. Parce qu'il ne sait pas comment plaire. Si je veux plaire à mon épouse, je dois l'écouter. Et après, je sais ce qui lui plaît. Parce que sinon, je vais faire des choses que font les hommes, qui plaisent les hommes et qui ne plaisent pas l'épouse. Ça ne l'intéresse pas. Hein, je vais pas lui acheter un train électrique. C'est pas... Non, je dois savoir d'abord ce qu'elle aime. Et après, je lui offre ce qu'elle aime. Et bien, le même respect pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux voir chez moi? Parce que moi, vraiment, je veux te faire plaisir. Ils nous font toute la publicité par rapport à 14 février, là, pour la Saint-Valentin, et puis ils nous voient les cadeaux. Mais oui, la Saint-Valentin, c'est tous les jours, hein, si on est amoureux. Pas besoin, c'est pas une fois par an que j'aime ma femme. C'est toute l'année. Moi, je lui offre pas des petits cœurs rouges. Moi, je lui offre mon cœur. Vrai. Ça va beaucoup plus longtemps, plus loin. Bon, après, elle apprécie quelques fleurs quand même. je ne voulais pas que vous, les maris qui avez déjà acheté votre cadeau, que vous ayez honte de l'offrir maintenant. Hein. Mais vous savez, le Seigneur, il nous parle de sa pensée. Et après nous, c'est une réponse à son enseignement. Il dit, je vous exhorte. Quand il dit, je vous exhorte, donc... Eh bien, une exhortation, c'est basé sur quelque chose qui a été déjà dit. Il ne dit pas « je vous ordonne », il dit « je vous exhorte ». C'est-à-dire, il dit « puisque ces choses dont je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous expliquer, comme tout cela est vrai, eh bien, finalement, vous n'avez rien d'autre à faire que de le mettre en pratique ». Et donc, il va passer au côté pratique de la vie. L'apôtre Paul fait ça, il fait avec l'épître aux Romains. Vous avez les 11 premiers chapitres, c'est de la doctrine. Et à part du chapitre 12, c'est de la vie pratique. Vous trouvez la même chose dans Philippiens. Premier chapitre, c'est l'enseignement. À partir du chapitre 2, c'est la mise en pratique. Vous trouvez ça dans Colossiens. Les deux premiers chapitres, c'est de la doctrine. Et puis, à partir du chapitre 3, eh bien, c'est la pratique. Il fait la même chose avec les Thessaloniciens aussi. À partir du chapitre 4, c'est la mise en pratique. C'est la méthode que... C'est pour ça que nous accordons tant de temps pendant notre culte du matin de faire de l'enseignement. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'enseignement. C'est pas juste Alléluia et on chante et puis on est content et puis oh, on a passé un bon moment. Vous pouvez faire une fête d'anniversaire et avoir la même chose. Si c'est juste une question de se créer de l'ambiance et d'avoir un moment agréable. Mais si je suis sérieux à vivre la vie chrétienne, à vivre pour Dieu, ben, il faut de l'enseignement. Il faut comprendre. Et les choses de l'enseignement de la parole, ce n'est pas basé sur nos capacités intellectuelles, parce que même un enfant peut apprendre à plaire au Seigneur. En fait, même le Seigneur, il a dit, à moins que vous deveniez comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est avec la simplicité, pas la complication de l'intelligence, avec la simplicité de la foi que nous pouvons vivre pour le Seigneur. Et vous vous souvenez, on a beaucoup souligné cela, mais regardez, révisez, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, vous avez vu, au verset 8, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi », c'est-à-dire vous avez cru et votre foi vous a donné accès à ce que la grâce de Dieu vous offrait, le salut. Mais après, il dit, au verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage ». Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est déjà compris, oui, il y a le salut bien sûr, il est gratuit, il vous est offert. Et heureusement pour vous. Mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut le vivre. Et ça ne peut pas être autrement. Alors autant nous nous réjouissons d'avoir le salut gratuit, mais autant, eh bien cela nous engage à vivre pour lui. Sinon, je n'ai pas bien compris ce que veut dire le salut. Parce que si on est sauvé de quelque chose, ce n'est pas pour rester là où on était. Si on est sauvé de quelque chose, c'est que c'était dangereux et qu'il faut sortir de là et vivre autrement. Sinon, je n'ai jamais été sauvé. J'ai peut-être fait une prière, j'ai peut-être fait un rituel, j'ai peut-être fréquenté les évangéliques, mais je n'ai pas été sauvé. Si je comprends que j'ai été sauvé, c'est que je suis sauvé de quelque chose. Si j'étais en train de me noyer et j'étais sauvé de la mer, c'est pas pour rester dans la mer, c'est pour être sur la plage et sur un rocher. Sur la terra firma, comme on dit. Et la raison pour l'enseignement, et je le rappelle aussi dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il nous dit pourquoi nous avons une Bible. Deux Timothée 3:16, pourquoi est-ce que Dieu a pris tant de peine pour nous révéler sa pensée? 2 Timothée 3 verset 16 et 17, il nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, l'Écriture est là, c'est pour nous enseigner, mais pour apporter une transformation, un changement dans notre manière de voir, notre vision globale du monde, notre manière de vivre, notre comportement, nos réactions. Et d'où l'importance de l'enseignement. Je reviens à Éphésiens chapitre 4, donc il nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Enfin, le prisonnier dans le Seigneur. L'apôtre Paul, il nous parle de la vie chrétienne et comment la vivre, et on serait tous d'accord de dire ben, « Lui, c'est notre modèle. » Mais arrêtez-vous et réfléchissez, mais l'apôtre Paul, il est prisonnier. Dans une prison païenne. Il dit, mais vous savez, quand vous êtes dans une prison, dans un pays d'une autre religion que la vôtre, en général, vous n'arrivez pas à pratiquer votre religion. Si votre religion consiste à devoir aller à certains endroits et puis se prosterner devant certaines images et tout ça, ben vous ne pouvez pas le faire. Là, c'est sûr que les Romains, ils ne prenaient pas l'apôtre Paul, il dit écoute, on va t'emmener à la chapelle là pour que tu puisses faire ta prière. Paul était dans la cellule et enchaîné, et il restait là, mais ça ne l'empêchait pas de vivre la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que si vous croyez que vous avez besoin d'aller dans un certain bâtiment, et si vous avez besoin de faire un certain voyage pour voir un certain truc, quelque chose pour plaire à Dieu, ben vous n'avez rien compris à la vie chrétienne et à l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait parfaitement, et il l'a fait, vivre à la gloire de Dieu enchaîné dans une prison. Et il passait du temps, hein, il passait des années même. Et il a conservé sa relation avec le Seigneur tout le long. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans les pratiques et ce n'est pas dans les, où je regarde et là où je vais, c'est dans mon cœur que ça se passe. Et même de nos jours, bon, ce n'est pas seulement certains pays où ils n'ont pas la liberté d'aller se rassembler. Mais des fois, vous savez, même dans ce, vous avez des situations, même ici en France, c'est parce que vous êtes marié à quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, vous n'avez pas toute la liberté de faire toutes les choses que font certains autres, qui sont, toute la famille est au Seigneur. Vous n'avez pas cette liberté. Mais ça n'empêche pas d'adorer le Seigneur. Ou bien il y a ceux qui sont, à cause de maladies ou quelque chose, qui sont cloués dans un lit. Alors ça y est, ils ne peuvent plus vivre la vie chrétienne. Absolument pas. Parce que ça se passe dans le cœur. C'est la parole de Dieu et l'évangile, c'est tellement beau. Parce que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et nous pouvons, chacun de nous, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les limites, que ce soit géographique, que ce soit physique, que ce soit par nos relations, par notre appartenance, parce que, ou à cause du pays dans lequel on se trouve, peu importe, tout cela n'est pas un obstacle pour adorer le Seigneur, servir le Seigneur et croître en lui. L'apôtre Paul, c'est pas par hasard qu'il dit « Et moi, le prisonnier. » Mais ça ne m'empêche pas de vivre la vie chrétienne. Et il dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dieu vous a appelé, vous a attiré à lui. Il vous a fait comprendre, il vous a aidé à comprendre. Vous avez entendu l'évangile, il a travaillé dans votre cœur. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais il y avait quelque chose qui travaillait là, qui vous a amené à comprendre ce qui paraissait si idiot, si bête avant. Et puis vous dites, non, mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Mais c'est lui, c'est grâce à lui, il a travaillé. Il a dit, ben voilà, maintenant vous devez vivre une vie digne de cet appel, de cette vocation. Et comment la vivre ? Eh bien, il a dit, et, verset 2 et 3, il nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit, voilà comment vous allez vivre d'une manière digne. C'est pas combien je donne dans les offrandes, c'est pas combien de fois je suis à l'église, c'est pas combien de fois, tout ça c'est important, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas, et Dieu n'est pas là en train de cocher des cases pour voir si vous avez rempli tout votre devoir. Il dit non, d'abord il commence, et c'est intéressant. C'est ça qui me prouve que c'est pas des hommes qui ont inventé ça. Parce qu'il commence par humilité. Alors ça, les hommes, ils auraient jamais pensé à ça. Avec ce que il nous dit, et tout ça, ça va dans cette pensée. Le verset 3, il dit, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit. Il dit, ce qu'on veut montrer, c'est cette unité d'esprit qui existe dans l'Église de Christ. Et bien sûr, on vient d'étudier dans le chapitre 2 et 3 le mystère de Christ. Et c'est comment il a pu prendre les juifs et les païens et les rassembler en Christ pour former un seul corps. Chose qui était inimaginable. Et même Paul lui-même, avant de rencontrer Christ, eh bien pour lui c'était impossible. Jamais. Je meurs mais je ne le fais pas. Et là tout d'un coup, lui, il a eu cette révélation. Dieu a fait une œuvre dans son cœur. Et tout d'un coup, il dit, mais rien de plus normal que les juifs et les païens ensemble qui reçoivent Jésus-Christ forment un seul corps. Et quand on parle de unité, c'est c'est pas quelque chose qui est fait sous la pression, hein. Il parle d'une unité, et l'unité, ça ne représente pas, ce n'est pas l'uniformité, hein. L'unité, c'est pas l'uniformité. Chez les hommes, vous voyez, on veut avoir une équipe unie, on leur donne tous les uniformes pareils, hein. C'est une équipe de foot, pour qu'ils soient tous le même uniforme, comme ça ils sentent qu'il y a un esprit de corps. Des militaires, on leur donne tous des uniformes. Vous voulez une école où il n'y a pas de problème, imposer les uniformes, il y a moins de problèmes que où les jeunes peuvent porter n'importe quoi. Ça, c'est les moyens qui sont chez les hommes, les humains. Mais pour Dieu, il dit non, ce n'est pas l'uniformité. Et vous regardez dans les religions, alors là, tous qui se rassemblent sous un bâtiment qui se ressemble, eh bien, ils font tous comme cela. Ils prient tous de la même manière, ils chantent de la même manière, ils s'habillent de la même manière. On a l'uniformité d'apparence, l'uniformité de comportement, l'uniformité de credo, qu'est-ce que là encore, l'uniformité de tradition. On aime bien cadrer. Mais vous savez, l'uniformité ne s'impose que par des pressions extérieures. Tandis que l'unité que Dieu veut, c'est quelque chose qui se fait par une œuvre intérieure. Et la vraie unité, c'est celle que le Saint-Esprit réalise. L'unité provient de l'intérieur, c'est une grâce spirituelle. Tandis que l'uniformité est le produit d'une pression venant de l'extérieur. L'unité, c'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Et le fruit, bien sûr, de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Hein, vous savez ce que c'est dans Galates 5, 22. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous voulons marcher ensemble dans l'unité. Et il dit, donc, si vous voulez commencer, eh bien, commencez par l'humilité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas un mot que vous allez entendre souvent sur le trottoir, hein, de nos jours. On ne parle pas d'humilité. L'humilité, c'est une vertu qui disparaît dès qu'on croit qu'on l'a. Dès que vous croyez que vous êtes humble, ça y est, vous ne l'êtes plus. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça. Et ça ne suffit pas de dire que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Parce que l'orgueil, il y a toutes sortes d'orgueil. Il y a toutes sortes de manières de... Tandis que l'unité, il n'y a qu'un seul comportement. Je vous cite ce que j'ai lu. Il dit, l'humilité chez l'enfant de Dieu consiste à mettre Christ en premier dans notre vie, puis les frères et sœurs, en Christ bien sûr, et ensuite son propre intérêt. C'est ça l'humilité. C'est pas être moins que les autres. C'est le fait de placer le Seigneur au-dessus, ensuite les frères et sœurs, et puis moi en dernier. Et c'est ce que l'apôtre dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas qu'ils le sont, mais tu te comportes vis-à-vis eux comme si. Et là si quand je commence ça, je traite n'importe qui avec respect, peu importe. Peut-être dans la société... Il pèse plus lourd que moi, mais ou il pèse moins que moi, hein, parce que vous savez, dans la société, on a toutes sortes de manières de graduer les gens. Mais dit dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien moi, la chose normale, c'est de considérer comme plus important que moi. C'est pas une question, tout d'un coup, je te rencontre et puis je te dis comment je vais mal. Non, je dis comment tu vas toi. Je commence par toi. Ça, c'est autre chose. Dans le monde, c'est pas ça. Mais dans le corps de Christ, il commence par l'humilité. L'humilité, ce n'est pas le fait de se rabaisser et dire oh, « je ne bon rien, je ne sais rien faire, je compte pas, ne me regarde même pas, ne me parle pas, je ne bon rien, je suis un pécheur, mort pourri. » Non, c'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil, ça, celui qui fait ça. Parce qu'il le fait ça, c'est pour qu'on lui dise « mais non, tu es mauvais que ça. » Tu vois, si je pouvais être autant, aussi bien que toi. Et tout ce que je veux, c'est des compliments. Si, c'est la fausse modestie. C'est pas la peine. Dis non. C'est où, spontanément, je cherche le bien de l'autre. J'aime l'autre. Il dit, commencez par l'humilité. Quand vous commencez par l'humilité, c'est-à-dire commencer à chercher l'intérêt de l'autre, eh bien, vous serez étonné ce que ça a pu faire pour créer l'unité dans le corps. Même dans un couple. Lorsque chacun, et vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois, hein, mais quand chacun tire la couverture de son côté, tous les deux ont froid. Mais quand on commence à penser à l'autre, après les deux ont chaud. C'est pareil. Et quand tous pensent à l'autre, personne n'est oublié. Ni l'enfant, ni le vieillard, ni celui qui est démuni, ni celui qui a tout. On ne doit pas avoir une trop haute opinion de soi, ni se rabaisser. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. En fait, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, Dieu m'a fait grâce, et ça a provoqué chez moi de l'adoration et du service. Vous savez, Jésus s'est humilié, lui qui est digne de toute gloire et qui était dans la gloire. Eh bien, il s'est humilié pour devenir notre sauveur. Et parce qu'il s'est humilié pour devenir notre sauveur, eh bien, nous sommes avec plaisir, nous le reconnaissons comme notre Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, il dit, s'est humilié jusqu'au plus bas point, il est mort sur la croix. Mais Dieu l'a, c'est pourquoi, à cause de cela, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre. Vous savez, si, vous savez, quand on est à l'aise avec soi, ben on n'a pas besoin de se faire croire les gens à quelque chose, non. Je suis ce que je suis, voilà. Et puis voilà, je suis à l'aise avec moi-même. Hein, je suis dans mon assiette. Et voilà, voilà ce que je suis. Voilà, toi, tu es ça. Et puis ben, on est content. Et puis tous les deux, on y va. C'est pas la peine d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce qu'après, c'est difficile d'entretenir. Hein. J'essaie de me faire passer pour le meilleur. Après, c'est dur. Après, parce que après, il faut entretenir cette réputation. Et alors après, il faut commencer des tas de choses. C'est compliqué. Puis après, vous savez, quand essayer de porter un costume qui n'est pas à vous, c'est terrible. Hein. Ça épuise. Autant porter un qui est moindre que moi, autant porter un qui est plus que moi, c'est pas à l'aise. Je suis ce que je suis, et par la grâce de Dieu. Il nous dit, en toute humilité et douceur. Ah, la douceur, vous dites-moi ça. Un homme doux, ah, c'est pas masculin, ça. Ou je sais pas, peut-être vous avez mal compris ce que ça veut dire masculin dans l'esprit de Dieu. Parce que Jésus était un homme doux. Et il n'y avait pas plus homme que lui. Vous savez ce que c'est la douceur? Souvent, c'est présenté comme une faiblesse. Mais en fait, la douceur, c'est... Ça indique une parfaite maîtrise de soi. Parce que quand je suis doux, même si l'autre n'est pas doux, je reste doux. Ça veut dire que je me contrôle très bien. Ce n'est pas lui qui provoque quelque chose, qui me fait faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est pas... Non, la maîtrise, une maîtrise, parfaite maîtrise de soi, on reste doux. Pas perturbé par ce que l'un dit ou ce qu'il ne dit pas. Il me reconnaît, il ne me reconnaît pas, il me fait un compliment, il ne fait pas un compliment. C'est pas la peine, moi, je suis très bien moi-même. Moïse était un homme connu pour sa patience et sa douceur, mais quel homme, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce qu'il a pu faire, hein, et qui auraient supporté ce que que les enfants d'Israël lui ont fait subir. Jésus, Il nous dit dans Matthieu 11, 29, il nous dit « Car je suis doux et humble de cœur. » Jésus était doux, mais cela ne l'a pas empêché de donner des ordres au vent et aux vagues, d'ordonner les mauvais esprits de sortir de certains hommes, ou de chasser les vendeurs du temple. Mais il était doux, parce qu'il était parfaitement maître de sa personne. Ce n'était pas des réactions par rapport à quelqu'un, c'était soit une réaction par rapport à Dieu, une réaction par rapport à la menace contre ses disciples, quelque chose, mais c'était toujours pour la justice. Mais il était doux. Vous savez, il y a des gens qui... il y a la moindre injustice, et après, ils commencent. C'est souvent les... Puisque je suis un père, je peux le dire, mais des fois, les pères, des fois, ils se fâchent contre ce qu'un gamin a fait, et puis ils commencent, et puis il ne s'est pas arrêté. Le gars, il a compris, ça y est, d'accord, j'ai compris, moi, je sais que j'ai mal fait. Mais bon, pendant une heure, il faut qu'il entende, mais tu es nul, tu n'as fait rien, pourquoi tu as fait ça? Arrête. Mais c'est parce qu'il ne peut plus se maîtriser. C'est la couleur qui le domine. C'est pour ça qu'il n'est pas doux. Le Seigneur, il nous dit la douceur. Est-ce que tu ne peux pas le dire gentiment? Pourquoi tu es obligé de te fâcher pour le dire? Non, on ne va pas m'écouter. Ah bon? Jésus a parlé. Et même Jésus, quand il a parlé de voix forte, mais c'était pas, il n'avait jamais insulté quelqu'un, il n'avait pas besoin de mettre tout ça pour... Nous, c'est parce qu'on est faible qu'on est obligé d'élever la voix, on est obligé de mettre des insultes et tout ça pour que ça fasse vraiment du poids et pour que ça ait de l'effet. Mais c'est un signe de faiblesse. Celui qui dit toujours la vérité, qui parle, les gens écoutent. Parce qu'il y a un témoignage derrière, il y a une vie derrière. Il dit la douceur. L'humilité, vous cherchez l'intérêt de l'autre. La douceur, ça veut dire que dans votre échange, eh bien, vous avez plein maîtrise. Et même le Seigneur, il nous dit, hein, si tu ne te maîtrises pas, tais-toi. Si tu sais, c'est comme un père qui il voit qu'il est tout fâché, il dit non, je ne vais pas le corriger maintenant parce que je suis fâché, c'est ma colère qui va agir, ce n'est pas mon amour. Donc il dit, écoute, je te donne rendez-vous tout à l'heure. Et puis je vais aller faire un tour, me calmer. Prendre une douche froide, n'importe, faites ce que vous voulez, et revient et calmement. Après, on peut parler, et là, l'enfant va écouter. Tandis que ce qu'on a dit en colère, il dit, bon, on attend que la tempête passe, après il fera mieux. Et ça ne change rien du tout. Et combien de choses on a fait, ça fait plus de dégâts que de bien. Parce que ce n'était pas dans la douceur. Il ajoute, il dit, toute humilité, douceur, avec patience. La patience, écoutez, la patience révèle combien vous aimez. Quand on aime, on est patient. La patience révèle notre foi. Parce que si j'ai confiance, je vais être patient. Il m'a dit qu'il va venir, j'attends. Je sais qu'il sera là. Mais si je n'ai pas confiance en la personne, elle dit, oh, peut-être qu'il s'est moqué de moi, peut-être qu'il dit n'importe quoi, il voulait m'envoyer me balader. Et un peu, quand il n'y a pas confiance, alors les pensées, ça tourne. Je sais, hein, je suis passé par là. Mais quand on a confiance, eh bien, on peut être patient. On sait que ça va venir. Et il nous dit... Et quand on fait la même chose avec le Seigneur, on est patient, pourquoi? Ben, le Seigneur, il a promis d'être avec moi, de me garder, de pourvoir. Ben, je te fais confiance, hein, j'attends. J'attends que ça vienne. Les 100 pas, c'est pour les gens qui ne sont pas patients. Ici, là, il parle de patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous supportant. Il comprend qu'il y a certains frères qui sont difficiles à supporter. Il y en a que ça prend beaucoup de vertus chrétiennes pour... Mais il dit, voilà, ben ça c'est ta responsabilité. On dit, ouais, mais il est pénible. Mais ce n'est pas ton problème s'il est pénible. Toi, ton problème, c'est comment tu vas réagir au fait qu'il est pénible. C'est ça ta responsabilité. Si l'enfant, il a un père, son père s'occupe de lui. Il est pénible, ce n'est pas ton problème. Mais c'est à toi de comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter par rapport à lui. Il dit parfois c'est agréable et parfois c'est supporté. Mais, il dit, mais vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que vous croyez que vous n'êtes pas pénible pour votre Père Céleste ? Vous croyez que ça a toujours été facile pour le Seigneur ? Croyez que vous, chaque fois qu'il vous a dit une belle chose dans la parole, il vous a dit Seigneur, voilà, je le fais tout de suite. Oh là, il y a combien de choses. Il nous tourne, et puis après les circonstances, il nous coince la porte, et puis il nous fait rentrer dans des impasses, et puis la situation est tellement bloquée qu'on est obligé de regarder le Seigneur, pardonne-moi. Il dit écoute, fais autant de grâce à ton frère que moi je n'ai eu avec toi. Combien de péchés est-ce que je t'ai pardonné? Combien de fautes est-ce que je t'ai pardonné? Eh bien, quand ton frère il aura atteint ce même nombre, tu pourras te fâcher. Ah non, mais bon. Mais c'est ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Hein? Si tous les gens qui récitaient cette prière s'arrêtaient sur ces mots-là, le monde y serait autrement. Supportez-nous. Vous savez, quand il y a l'humilité, quand il y a la douceur, vous dites, après, finalement, supporter, ça devient facile. Hein? Et c'est bien qu'il ait mis ça dans cet ordre-là. Parce que si déjà je le considère comme meilleur que moi, je respecte comme étant plus important que moi, et puis que j'ai parfaite maîtrise de moi, je suis doux avec lui. Ben vous savez, ça changera tout, hein, la manière dont je le supporte. Et vous supportant avec charité. Vous savez, le chapitre sur la charité, 1 Corinthiens 13, je cite juste un verset, verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4, dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point ». Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et puis, vous pourrez lire la suite si vous voulez. Mais dit, vous, avec cet amour-là, vous n'aurez pas de mal à supporter. Et vous allez vous dire, aujourd'hui, le pauvre, il doit, s'il se comporte comme ça et puis parle comme ça, c'est qu'il souffre drôlement à l'intérieur. Je vais prier pour lui. Parce que c'est une drôle de souffrance. J'aimerais pas être à sa place. Plutôt de dire, ouais, mais il me traite de quoi ? Mais alors, peu importe ce qui te traite. Heureusement que je ne suis pas devenu fou chaque fois qu'on m'a traité de fou. Hein. Heureusement que les gens n'ont pas ce pouvoir. C'est parce qu'ils me traitent d'idiot que je deviens idiot. Non, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai été appelé toutes sortes de choses. J'ai déjà assez de problèmes avec ce que je suis. Ce n'est pas la peine de m'ajouter des choses dessus. Donc, il n'y a pas la peine de se fâcher. Il a parlé en l'air. Touche pas. C'est pas vrai de moi. Donc, il a parlé en l'air, c'est pas grave. Vous savez, le chrétien, c'est quelqu'un qui arrive à, grâce au Seigneur, à voir discerner et à répondre comme Jésus l'aurait fait. Hein, c'est la semaine dernière, je crois que je vous ai parlé de ce livre qu'aurait fait Jésus à ma place. Vous savez, qu'est-ce qui vous a conquis à Christ ? N'est-ce pas son amour et sa manière de vous comporter avec le pécheur, se comporter avec le pécheur ? Il est venu vers le pécheur. Il a commencé, il a dit « Je te guéris ». Après, il a dit « Maintenant que tes péchés soient pardonnés ». Et après avoir dit « Tes péchés soient pardonnés », qu'est-ce qu'il disait toujours ? Il dit « Lève-toi et marche ». C'est ça le programme de notre vie. Jésus vient. Il dit, écoute, je vois que tu es dans une drôle de situation, même toi, tu ne te rends pas compte. Mais écoute, je vais t'aider, je guéris, je pardonne tes péchés. Maintenant, lève-toi et marche de cette nouvelle vie que je t'offre. Et c'est ça. Ce qu'il faisait physiquement avec les uns à son époque, eh bien, il le fait spirituellement avec nous aujourd'hui. Et ce qui nous a conquis, c'est son amour pour nous. Dis Seigneur, personne ne m'a jamais aimé comme tu m'as aimé. Et ça reste vrai. Dis, qu'est-ce que, Seigneur, je ne peux pas faire autrement. Quand j'ai compris combien tu m'as aimé et ce que tu as fait pour moi, ben, voilà, je suis à toi. Bien sûr, tout cela, ce n'est possible que pour celui qui est né de nouveau, né de l'Esprit. Parce qu'une fois qu'on est né de l'Esprit, après on peut commencer à marcher selon l'Esprit. Très rapidement, je veux lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, et je vais lire les versets 25 d'abord. Galates 5, verset 25, il nous dit, si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire si cette vie nouvelle que tu as, c'est par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si tu as reçu la vie par l'Esprit de Dieu, parce que tu es né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, et bien alors maintenant, marche selon l'Esprit, que lui te conduise. Et au verset 16, donc Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est si simple que ça. Vous voulez plus parler en mauvais français, commencez à parler du bon français. Et puis le reste, ben, ça ne sortira pas. Marchez selon l'Esprit, et le reste, ben, ça ne se fera pas. Parce que l'Esprit, il n'y aura pas de place, il n'y aura pas d'occasion pour ça. Et l'apôtre Paul ajoute là dans ce passage d'Éphésiens 4, il dit, vous efforçant, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. Vous efforçant de conserver. Vous savez, c'est comme un mariage. On peut avoir un bon mariage, et puis tout le monde est heureux, et puis dire, ah, ils ont tout pour réussir. Lui travaille, elle travaille, il a un diplôme, ils sont beaux, et puis ils ont leurs parents qui sont là. C'est idéal. Ah, ça, c'est... Non. Parce que si ce n'est pas entretenu, ça ne reste pas comme ça. L'unité, mais après, il faut l'entretenir. Le plus beau des jardins, s'il n'est pas entretenu, ça devient une jungle. Et l'unité dans l'Église aussi, on peut avoir, ah, c'était beau, mais il faut l'entretenir chacun, et chacun s'entretient, et comme ça on entretient la vie de l'Église. Vous ne voulez pas être le grain de sable qui ruine la mécanique. Il suffit, un petit grain de sable, vous mettez ça dans votre moteur. Quand vous versez de l'huile, vous mettez un peu de sable aussi, voilà. Et puis, la voiture ne durera pas longtemps. Mais j'ai aimé ça, j'ai lu, c'est Jean-Pierre Vernant, je ne connais pas, mais apparemment, il a un ouvrage qui s'est intitulé « Un grain de sable ». Et il dit « Être le grain de sable que le plus lourd engin » écrasant tout sur son passage, ne réussissent pas à briser. Si c'est être ce grain de sable, le gros camion qui écrase n'importe quoi, mais il passe sur un grain de sable, le grain de sable, il est intact. Il dit, vous savez, c'est pas une question d'imaginer qu'on est en rond rocher. Non, je suis un grain de sable. Je suis ce que le Seigneur a fait de moi. Eh bien, je le préserve intact. Et rien de ce qui est envoyé contre moi ne pourra le changer. Jésus-Christ, on lui a envoyé de tout. Et il est resté le même. Ce qu'il était le jour de son baptême, il l'était le jour de son ascension. Alors ne soyons pas le grain de sable qui endommage la mécanique, mais soyons le grain de sable qui reste intact, quelles que soient les pressions qui sont mises sur lui. Et Jésus eh bien, il est resté doux et humble jusqu'à sur la croix. Et il répandait la paix partout. Devenu un grain de sable, mais un grain de sable qui restait intact. Et c'est ce que nous voulons aussi. L'apôtre Paul dit, je relis, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Dimanche prochain, Dieu voulant, on va continuer dans cette unité et ce qui compose cette unité. Mais vous savez, c'est le plan de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et il a de belles choses pour nous, que le monde ne peut pas reproduire. Ni par la force, ni par la doctrine, ni par la pression, ni par la menace, ni rien du tout. Dieu le fait par son œuvre, au travers de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Nous voulons donner quelques moments de silence et que chacun puisse prier pour lui-même déjà. Peut-être le Seigneur vous a parlé sur un point particulier. Et donc, vous avez besoin de dire quelque chose au Seigneur. Et ensuite, je vais prier.